cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 29 janvier 1986.
Alors, il y a deux petites questions. Je réponds tout de suite. Comment faire une philosophie réaliste à partir d'une expérience imparfaite? Toutes nos expériences sont imparfaites. La seule expérience qui ne sera pas imparfaite, ce sera la vision béatifique. À ce moment-là, on n'aura plus besoin de faire de la philosophie. Comment faire une philosophie réaliste à partir d'une expérience, une éthique réaliste à partir d'une expérience d'amour, d'amitié qui est imparfaite. L'imperfection vient du devenir. Toutes nos expériences impliquent une modalité de devenir. Tous les êtres sont des étants. Mais les êtres existent. Et dans toute expérience où implique un devenir, elle est cette expérience. Donc, si c'est une certaine expérience d'amour, elle implique la finalité. Le bien est présent dans toute expérience d'amour. Et le bien actue et finalise. Mais c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. Si vous regardez le devenir de l'amour dans une perspective dialectique, vous n'atteignez jamais le bien. Mais si vous essayez d'être suffisamment lucide pour comprendre que toute expérience d'amour est déterminée, spécifiée par le bien, vous atteignez la fin. Et c'est ça, l'expérience dont on se sert pour découvrir l'acte et découvrir le bien. Mais si vous attendez d'avoir une expérience parfaite pour induire, vous n'induirez jamais. Parce que toutes nos expériences sont imparfaites. Les expériences expriment le niveau de vie dans lequel on est. C'est subjectif. Normalement, au plan spirituel, plus on avance, plus nos expériences ont une qualité d'amour, de vérité. Donc, j'allais dire, l'induction est beaucoup plus facile. C'est sûr. Je suis d'accord. J'espère que c'est plus facile pour moi d'induire que pour vous. J'espère. Parce qu'autrement, le nombre d'années de réflexion philosophique n'aurait pas servi à grand-chose. Mais, le plus permet de mieux connaître le moins. C'est pour ça que quand on est au niveau moins, c'est plus difficile d'expliciter. C'est, je crois, pourquoi l'induction disparaît. Parce que c'est très difficile d'expliquer l'induction quand on est, c'est vrai, en face d'expériences encore très imparfaites. C'est pour ça qu'Aristote dit qu'on entre en métaphysique qu'à partir de 45 ans. C'est bien évident. Et en éthique aussi. La différence avec Aristote, c'est que nous sommes des croyants et des chrétiens. Ce qui permet d'avoir une intelligence plus vite mûre. Je crois qu'un chrétien peut faire de l'éthique très vite. Et de la métaphysique aussi. Beaucoup plus vite. Parce que la foi mûrit notre intelligence de façon étonnante. Et la foi mûrit notre amour. Et le danger, c'est d'être trop vite mûr. Vous savez bien, parce qu'il y a des gelées de printemps. Et les gelées de printemps font que ces fruits hâtifs risquent d'être gelés. Donc il faut voir que de fait, c'est très vrai, la foi mûrit notre intelligence. Mais nous faisons toujours la distinction entre ce qu'est notre intelligence et notre foi. Donc, je dirais, cette objection, c'est très bien, il faut la poser. Mais il ne faut pas s'y arrêter. L'imperfection, c'est le devenir. Et ce que nous essayons de saisir, c'est l'acte dans le devenir. Et toute opération d'amour implique une détermination du bien. Par l'amour, le bien est présent dans ma vie. Et c'est le bien qui m'attire. Oui, il y a une espèce d'immanence dans l'amour qui fait que le bien est présent au-dedans de moi. Et en même temps, le bien me fait sortir de moi. C'est ça qui est très important à saisir. Ce double mouvement qui est présent dans l'amour et qui me fait saisir ce que c'est que le bien. Alors, autre objection. Si on coupe, donc si on sépare, la fin du bien, l'intention de vie de l'amour spirituel, n'y a-t-il pas une formalisation de la fin qui la réduit à une efficacité, à un but qu'il faut atteindre? Ne serait-ce pas le fondement de l'éthique stoïcienne des vertus? Je suis tout à fait d'accord que le passage du bien à la fin, nous le faisons dans une analyse, pas dans une séparation. Mais toute analyse, donc toute distinction, risque, si on n'est pas très attentif, de se ramener quelquefois à une séparation. Alors, si vous séparez ce point de vue de l'amour qui regarde le bien et l'intention qui regarde la fin, l'intention de vie qui regarde la fin, vous comprenez bien que cette étude, c'est une analyse. Et nous l'avions bien vu la dernière fois en essayant de comprendre comment, dans une induction pratique, progressivement, nous distinguons les moyens de la fin. Les moyens sont toujours pour nous beaucoup plus proches de l'expérience. Avez-vous au sens rigoureux l'expérience de la fin? C'est une question qu'il faut se poser. Avez-vous de façon rigoureuse l'expérience de la fin? Vous avez l'expérience du bien. Vous avez l'expérience des moyens. Ce qu'on appelle, au point de vue psychologique, les motivations. Les motivations sont au niveau des moyens. Philippe et de Bethsaïde, la ville d'André de Pierre. C'est une motivation qui n'explique rien. Les moyens n'expliquent rien. Les moyens expliquent le périphérique, mais pas le centre de la ville. Je vous ai déjà dit, hein, faire 20 fois le tour de Paris avec le périphérique, ça ne vous fait pas connaître Paris. Il peut dire, je connais parfaitement Paris parce que j'en ai fait 20 fois le tour. Et vous avez noté toutes les portes, tous les arrêts, toutes les motivations. Ça ne nous fait pas connaître ce qu'est le centre. Alors, posez-vous la question, parce que ça c'est très important. Vous avez une expérience interne. Oui, j'ai l'expérience du bien. Le bien, c'est ce que tous désirent. À tous les niveaux. Le bien sensible, le petit déjeuner, maintenant qu'il a été pris, donc vous pouvez y réfléchir. Il vous a actué. Donc, une expérience du bien. Le bien, c'est le bien sensible, c'est l'aliment. Puis il y a le bien spirituel. Bon, il y a une certaine expérience du bien. Une expérience interne. Puis vous avez une expérience des moyens. Alors ça, c'est une expérience interne et externe. Les moyens, les motivations. C'est les moyens multiples. C'est périphérique, les moyens, parce que c'est tout ce qui nous conditionne. Nous sommes conditionnés par la recherche des moyens. Alors, vous voyez, l'aliment est à la fois un moyen dont on l'utilise, puis à la santé. Vous expérimentez la santé, et vous expérimentez surtout le manque de santé. Parce que quand vous êtes en bonne santé, vous ne vous y arrêtez pas. Tandis que dès que vous avez un petit bobo, ouh, attention, tout de suite, attention, vous vous arrêtez. Vous voyez. Donc vous avez l'expérience négative de la santé qui vous effraie tout le temps. Puis vous avez l'expérience des moyens. Ça c'est sûr, on a l'expérience de toutes les motivations. Est-ce que vous avez l'expérience de la faim? Je dis ça pour compléter ce que nous avions dit la dernière fois, voyez. Ça revient, ce que nous allons voir maintenant. Nous n'avons pas l'expérience de la faim comme faim. La faim comme faim est saisie uniquement par l'intelligence. C'est l'intelligence qui saisit la faim comme faim. Et qui précise la faim comme organisant tous les moyens. Et donnant aux moyens leur sens. Et c'est par là que je dépasse la motivation. Et je vois que mes motivations ne sont pas ce qui me finalise. Oui, c'est le danger du psychologisme pris comme absolu, c'est que je reste au niveau des motivations et que je ne saisis jamais la fin. Parce qu'il n'y a pas d'induction. Il n'y a pas le dépassement vis-à-vis de quelque chose qui est au-delà de tous les moyens et qui est la fin. C'est pour ça que je disais, on saisit la fin par une induction. Une induction tout à fait particulière, parce qu'elle est très pratique, mais elle est importante à saisir. Donc c'est dans une induction que je saisis la fin. Je saisis donc la fin par le point de vue de l'intelligence. L'intelligence philosophique. Parce que habituellement, vous ne faites pas attention, vous restez au niveau de l'intention. Et si vous êtes très spirituel, c'est-à-dire un bon chrétien, vous purifiez vos intentions. La béatitude des cœurs purs. Et la béatitude des cœurs purs, c'est quoi? C'est cette purification qui consiste à laver l'eau. Prêtez soldat de Gédéon. Et ne pas mettre deux genoux en terre et de s'arrêter comme c'est agréable de s'arrêter. À ce moment-là, il n'y a pas de purification. Et vous restez sur le bien sensible. Le point de vue du le moyen qui vous arrête. La purification, c'est très intéressant, voyez. Le langage de la purification et l'induction. Purification est dans l'ordre affectif, ce qu'est l'induction dans l'ordre intellectuel. La purification consiste à relativiser des quantités de choses secondaires qui d'habitude nous arrêtent, sont des ornières. Alors, on est arrêté par tout cela. Alors, la purification interne purifie notre cœur et nous donne des ailes. Alors, on dépasse vite. On lappe l'eau. C'est merveilleux. Ça exprime magnifiquement ce que c'est, laper l'eau. C'est intéressant pour nous, hein, parce que Grignon de Montfort dit, c'est du spirituel ce que je vous dis là, mais c'est du théologique, mais Grignon de Montfort dit que c'est le propre des apôtres des derniers temps. Ils devront laver l'eau. Purification. Noviciat des apôtres des derniers temps. Purification très radicale. Très forte. Et par le fait même, l'intelligence qui doit être au service de ces purifications doit avoir un sens très aigu de l'induction. Parce que quand vous avez que les purifications au niveau affectif, sans avoir le support intellectuel, alors vous êtes bien suspendu par la foi, mais quand la foi est tout à fait obscure, vous ne voyez plus rien du tout. Si l'intelligence est là, ça donne un petit support. Vous savez bien, quand on était gosse, et qu'on allait dans le train, et qu'on passait dans les tunnels, quand il n'y a pas le petit point lumineux, c'est embêtant un tunnel. C'est pas dans lequel. On s'enfonce dans un trou noir. C'est vraiment un trou noir. Et le gosse crie parce que c'est noir. Et il n'aime pas ce trou noir. Regardez une petite lampe, ça va. Bien, l'induction, c'est ce petit point lumineux qui me montre, oui, c'est normal. Je me purifie en vue de la fin. Alors, ça donne un support. Oui, l'intelligence, c'est toujours les purifications actives que nous pouvons faire et qui donnent un support et qui aident. Alors, je crois que ça nous aide à comprendre le domaine affectif des purifications et le domaine d'une intelligence affective, pratique, qui induit. Faites le parallélisme, c'est très éclairant. Ça nous aide à mieux comprendre comment l'intelligence pratique, au milieu de la forêt des moyens, au milieu de toutes les circonstances dans lesquelles on se trouve, dépasse ça pour saisir la fin. Bon, c'est l'intelligence pratique qui saisit la fin. Cette fin est inséparable du bien. Je dis bien inséparable. Elle est distincte du bien, mais inséparable, puisque c'est à partir de l'amour que je saisis la fin. J'aime les moyens. Pourquoi aimez-vous les moyens? Parce qu'au fond, vous cherchez un bien. Le bien est présent à travers tous ces moyens. Toute motivation, c'est l'hirondelle qui annonce le printemps. Toute motivation, c'est le bien qui vient au-devant de vous, à travers cette physionomie particulière, ce masque particulier des moyens. Le bien est caché à travers les moyens. Le vrai bien, le bien profond, le bien spirituel, les moyens sont sensibles. Donc pour moi, ils sont beaucoup plus proches. C'est pour ça que c'est des motivations. Beth Saïd, c'est concret. Tandis que suivre le Christ, c'est autre chose. Beth Saïd, il n'y a aucune commune mesure entre Beth Saïd et suivre le Christ. Aucune. Il y a des quantités de gens qui sont nés à Beth Saïd qui n'ont pas suivi le Christ. Mais pour nous, Beth Saïd est plus concret. C'est quelque chose que nous saisissons. Toutes les motivations sont sensibles. Et le bien est présent. Si j'aime ces moyens, c'est parce que je cherche le bien. Si j'aime de prendre telle ou telle petite pilule homéopathique, c'est parce que je cherche la santé. Et si je n'aimais pas la santé, je n'avais pas le désir, je ne prendrais pas ces petits remèdes qui ponctuent ma journée d'une façon très particulière. Alors voyez bien que c'est le bien présent dans les moyens. C'est pour ça que j'aime tel remède. C'est pour ça que j'aime de faire un peu de gymnastique pour me détendre. C'est parce que je veux la santé. Je cherche ce bien, présent dans ses moyens. Donc, l'amour du bien est présent dans les moyens. Autrement, ce ne serait pas des moyens. Le moyen en lui-même n'est pas aimable. Il est aimable en fonction du bien. Et je découvre, à travers cet amour de ces biens, la présence du bien, j'allais dire d'une façon beaucoup plus pure, quand mon intelligence saisit l'au-delà des moyens. Le bien est adéquatement présent. Adéquatement, c'est pas tout à fait juste. Le bien est beaucoup plus présent. Il est présent d'une manière absolue dans la fin, alors qu'il est présent vraiment dans les moyens. Il y a un certain absolu dans la fin. C'est ma fin. C'est mon bien. Donc, je ne peux pas découvrir la fin sans l'amour du bien. Toujours le double ordre que nous devons faire hein, et sur lequel nous devons constamment jouer. L'ordre de l'analyse que nous prenons ici. Alors nous mettons l'amour en premier. Et puis l'ordre génétique. Dans l'ordre génétique, cet amour du bien, il est annoncé par l'amour des moyens. Génétiquement, l'amour des moyens est premier. Selon l'ordre de nature, l'amour du bien est premier. et l'amour de la fin est première. Oui. Alors, comme c'est dans l'ordre pratique, c'est très important de bien saisir ces deux ordres. Une analyse selon l'ordre de perfection et puis l'aspect génétique. Et tant que nous faisons la confusion entre ces deux ordres-là, nous ne comprenons pas. Donc il faut arriver petit à petit à le comprendre. Un peu de lucidité dans l'ordre pratique. Et cette lucidité consiste justement à comprendre que c'est vrai, génétiquement, selon... Je commence à aimer d'abord. L'enfant aime le biberon. Nous avons tous aimé le biberon. Peut-être plus maintenant, mais nous avons tous aimé ça. Nous avons tous aimé être câlinés, bercés. Tous, c'est bien évident. Et c'est par là que l'amour de la mère était présent. Je n'ai pas aimé le biberon d'une façon absolue, c'est faux. J'ai aimé le biberon à cause de la mère. Mais génétiquement, qu'est-ce qu'il y a eu en première conscience? C'est le point de vue du moyen. Et par le moyen, j'atteins la fin, génétiquement. Dans l'analyse, je vois d'abord l'ordre du bien. Oui, soyez bien conscients de ça. Nous faisons, si j'expose au point de vue philosophique, on prend un ordre de nature. C'est l'ordre de science, ça peut faire autrement. Donc on commence par ce qu'il y a de plus absolu pour voir ensuite ce qu'il y a de plus relatif. Mais dans un ordre génétique, c'est l'inverse. Puisque nous sommes dans le devenir. Donc nous commençons par ce qu'il y a de plus immédiat pour nous. Alors, je reprends pour que je réponde à la question posée. Entre le bien et la fin, il y a une distinction réelle, du moins une distinction réelle, une distinction que l'intelligence fait. Autre chose est de regarder le bien, autre chose est regarder le bien comme ma fin. Comment se fait ce passage? Ce passage se fait à l'intérieur des diverses modalités d'amour, des moyens, pour découvrir progressivement un amour qui s'impose, et qui s'impose d'une manière telle que j'aime d'une manière absolue. Et l'amour qui n'est pas relativisé, c'est un amour qui me finalise. Et donc je passe à ce moment-là du bien. Le bien est diffus. La fin n'est pas diffuse. Le bien est diffus. Le bien, il est présent dans tous ses moyens. Il est diffus. Et l'amour est diffus. C'est ce qui explique comment si facilement s'arrête un moyen. C'est si agréable. Et que c'est si difficile de l'appeler l'eau. Parce que pour l'appello, il faut déjà que l'attraction du bien absolu de la fin soit très forte. Quand l'attraction de la fin n'est pas assez forte, je m'arrête. Carpe diem. Je ne sais pas si demain j'aurai encore ce petit chocolat. Alors je le prends tout de suite et je m'arrête. C'est très bien de dire de passer rapidement. Oui, mais je ne sais pas si demain je l'aurai. Alors je m'arrête. Vous voyez, je ne suis pas assez attiré par la fin. Si je ne suis pas assez attiré par la fin, je m'arrête aux moyens. Carpe diem. Je jouis de ces moyens. Jouissons de ça. Quelqu'un me dira, mais c'est pas grand-chose. Regardez autre chose. Ah, mais ça, je suis sûr. Un tien vaut mieux, dit-on, que deux, tu l'auras. Alors, celui que vous avez, c'est le moyen. Celui que vous aurez, c'est la fin. Mais j'en suis pas sûr. Tandis que celui-là, vous voyez, ça, c'est vraiment la sagesse pratique. Pratique, on dirait aujourd'hui, la philosophie populaire. Vous voyez bien, c'était pratique, pratique, pratique. Mais si vous restez là, vous restez toujours, non pas à l'appello, mais à vous arrêter. Et à carpe diem. Vous en prenez le plus que vous pouvez, plein vos poches, pour être sûr de pouvoir arriver à l'autre étape. C'est ce que nous faisons. Tant que nous n'avons pas suffisamment compris la scène. utiliser les biens en vue de la fin. Donc, je découvre le bien fin. C'est l'intelligence qui fait ça. Et l'intelligence découvre le bien fin dans une distinction de l'intelligence qui saisit la fin comme ce qui m'attire, comme ce qui me polarise, ce qui me permet d'ordonner tous les moyens. Le moment où je saisis la fin, j'ordonne les moyens, c'est-à-dire je relativise les moyens. Tant que je n'ai pas saisi la fin, je ne peux pas relativiser les moyens. Les moyens se présentent à moi, tous, à leur manière, comme un certain absolu. Et chacun, je les aime. Et vis-à-vis de chacun, je risque de m'arrêter, parce que je les aime. Et je risque de les aimer trop, alors je m'y arrête. Je relativise ces moyens quand je découvre la fin. Alors, ils s'ordonnent. Donc, il y a un moment très important, c'est de saisir le bien comme un absolu capable d'ordonner tous ces biens relatifs qui sont des moyens. Incapable, ces moyens de me finaliser, parce qu'ils sont trop relatifs. Mais je les ordonne. Si cette distinction devient une séparation, c'est-à-dire si je ne comprends pas avec suffisamment de netteté l'absolu de l'amour, c'est à travers l'amour que je découvre la fin. Si je cérébralise, le défaut de tous les intellectuels, si je cérébralise, c'est-à-dire si je regarde la fin, indépendamment du bien, donc coupé de l'amour, et je ne regarde plus que l'ordre, ça c'est très intellectuel, l'ordre des moyens vis-à-vis de la fin. À ce moment-là, c'est très vrai, je tombe dans le stoïcisme. Ce n'est plus le bien qui est l'absolu, c'est la fin. Alors que l'absolu, c'est la fin découverte dans le bien. C'est le bien fin. Vous voyez, il y a quelque chose d'analogue, pour que vous compreniez mieux, il y a quelque chose d'analogue entre la distinction que nous faisons entre forme et matière. Si nous sommes très précis, nous devons dire nature-forme, nature-matière, pour ne pas tomber dans un aspect systématique, distinction forme et matière. Nous avons ici la distinction bien, fin, bien, moyen. Si je dis bien, fin, bien, moyen, le bien moyen, c'est l'utile. C'est le moyen, il est utile. Le bien utile est un moyen. Et le bien fin était né pour lui-même. Il était né pour lui-même. Vous voyez ? Alors, il y a quelque chose d'analogue comme distinction. Si je ne regarde plus le bien, et je distingue fin et moyen, et je risque de considérer la fin directement en elle-même, sans voir comment j'ai atteint. L'induction disparaît et je tombe dans un a priori. Puisque quand l'induction n'est pas là, je tombe dans un a priori intellectuel. Je dis, il faut être finalisé, c'est la chose principale. Si vous n'êtes pas finalisé, ça ne va plus du tout. Et donc la fin s'impose comme un a priori. Et quand la fin s'impose comme un a priori, elle est coupée du bien. Je dois faire ça. Ça n'est commandé. Et vous tombez dans le stoïcisme et l'efficacité. C'est très vrai que la fin ordonne les moyens. Mais la fin ordonne les moyens parce qu'elle est le bien absolu. Et que les moyens ne sont que des biens relatifs. Mais le jour où vous séparez la fin du bien, et vous séparez les moyens du bien, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez uniquement un lien d'efficacité entre la fin et les moyens. Et vous dites, il faut prendre ça pour atteindre cette fin. Et vous ne cherchez plus que l'acquisition de la fin. C'est la seule chose que vous cherchez. Et uniquement l'efficacité. Et vous tombez dans la morale kantienne. Toute la différence qui existe entre Aristote et Kant. La morale kantienne ou la morale stoïcienne. Puisque Kant et les stoïciens, ça se tient. Je crois. Évidemment, entre Épictète et Kant, il y a un monde, ça c'est sûr. Mais si je prends le stoïcisme passé à travers le christianisme, il devient Kant. C'est un drôle de baptême. Baptiser Épictète, je ne dis pas qu'il devient Kant, mais c'est quand même un petit peu comme ça. Prenez, le stoïcisme baptisé va devenir Kant. C'est extraordinaire. C'est parce que le stoïcisme n'est pas capable d'être baptisé comme stoïcisme, puisque c'est toujours par l'amour qu'on est capable d'être baptisé. Et ce n'est pas l'efficience et l'efficacité qui nous rend capable d'être baptisé. Autrement, vous pourrez baptiser des robots, alors qu'on baptise quelqu'un qui est capable d'aimer. Alors si on coupe le stoïcisme, si on coupe le point de vue moral du bien, et qu'on ne voit plus que l'efficacité, donc si vous ne voyez dans le stoïcisme que l'efficacité, vous aboutirez à Kant. Donc ceci, c'est pour essayer de répondre à ce point de vue que, de fait, il y a un danger de transformer une distinction en séparation. Alors il faudrait se demander pourquoi on fait ça. Ça, c'est vrai. Pourquoi cette séparation peut-elle se faire alors que c'est une simple distinction entre le bien et la fin? Pourquoi? Parce que l'amour est toujours quelque chose d'obscur et qu'on veut quelque chose de clair. Vous voyez les idées claires de Descartes. L'efficacité, c'est beaucoup plus clair que l'amour. L'amour, c'est toujours un peu voilé, parce que c'est au-delà de tous les raisonnements. Il y a quelque chose dans l'induction pratique qui me fait découvrir la fin, quelque chose qui demeure voilé, puisque c'est à l'intérieur de l'amour que je fais cette induction. Et on aime bien de dominer avec la clarté, la définition. Je définis la fin. Et je la sépare du bien. Et à ce moment-là, la cause finale n'est plus que l'efficacité. C'est très curieux, ça. Et vous avez Occam. Puisque de fait, il considère que la cause finale est supprimée, qu'il n'y a plus que l'efficacité. Vous voyez le lien entre le stoïcisme au niveau moral. Le stoïcisme, Occam, Suarez, c'est bien évident. Et vous découvrez Descartes directement dans la ligne, puisque c'est l'efficacité. Et vous découvrez toute l'attitude de Kant, l'apéritif catégorique. C'est la ligne. Une fois que vous avez mis entre parenthèses la cause finale, vous avez cette grande crête de la causalité efficiente. Domine tout. Bon, je continue d'essayer de comprendre ce que c'est que l'induction, ce que c'est que l'intention de vivre. Découvrir la fin à l'intérieur du bien permet, dans un amour actuel, de découvrir un ordre. Quand je découvre la fin, je découvre une causalité. Quand je découvre le bien, je ne découvre pas nécessairement une causalité. Mais quand je découvre la fin, je découvre une causalité, c'est-à-dire ce qui est capable de mesurer et d'ordonner tous les moyens. D'ordonner tous les moyens. de les relativiser, donc de les dépasser. Et le propre de l'intention de vie, c'est de mobiliser toute mon efficacité pour atteindre cette fin. C'est très vrai que le passage de l'amour, donc numéro 1, au numéro 2, c'est l'intelligence qui s'impose de plus en plus. L'intelligence est plus présente à l'intention de vie qu'à l'amour. L'intelligence est présente dans cet amour spirituel, dans cet amour fondamental. L'intelligence est présente puisque je ne peux aimer le bien que s'il est connu. Condition sine qua non. C'est une condition sine qua non. Le bien, je ne peux l'aimer, il ne peut m'attirer que s'il est connu. Donc, la connaissance est une condition sine qua non, pas plus. C'est pas la connaissance qui spécifie. Qu'est-ce qui spécifie l'amour ? C'est le bien. C'est le bien qui est acte de l'amour. Bon, ça, j'espère que vous allez le comprendre. Tandis que, qu'est-ce qui détermine l'intention ? Qu'est-ce qui détermine l'intention ? C'est la fin. Saisie à l'intérieur d'une induction, par l'intelligence. L'intelligence va donc spécifier mon intention de vie. Ça explique beaucoup de choses. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui ne sont pas assez intelligents, qui n'arrivent pas à cette intention de vie. Il faut une intelligence pénétrante à l'intérieur même de l'amour, pour arriver à découvrir une intention de vie. Il faut donc un effort de l'intelligence, un éveil de l'intelligence, pour ordonner ma vie, pour l'organiser. Les êtres purement affectifs, romantiques, n'arrivent jamais à une intention de vie. Ils sont d'une générosité folle, mais ils s'arrêtent à tous les moyens. Et dépensent toute leur générosité dans les moyens. C'est merveilleux comme générosité, mais ça va dans tous les sens. C'est un peu anarchique. Il manque l'intelligence. C'est l'intelligence qui donne cette rectification de l'intention de vie. C'est l'intelligence au service de l'amour qui permet l'attention. Des quantités de personnes, il faut bien le dire, sont beaucoup trop pris par l'imaginaire pour arriver à une intention de vie. Alors ils sont des moutons de panurge. Vous voyez, pour les élections, c'est net. C'est pas commode d'avoir une intention politique, de voir ce qu'il faut faire. Alors on dit, c'est tellement compliqué. Ça n'a pas d'importance. Générosité. La générosité peut tuer l'intelligence. Ça, c'est vrai. Parce que la générosité reste à un niveau, vous voyez, horizontal. Les gens généreux sont un peu univoques. L'univocité dans l'ordre de l'amour. Ça n'a pas d'importance. Tout est relatif. On se précipite sur la dernière œuvre qui paraît. Et on donne tout à cette œuvre, la générosité. On ne réfléchit pas qu'à côté, il peut y avoir un pauvre qu'on peut aider, qui ne dit rien, dont on ne fait pas la réclame, parce qu'il est trop pauvre. Mais l'intention de vie donne une intelligence à l'égard des moyens, et donc permet de dépasser l'imaginaire et d'ordonner les moyens. C'est ça la chose très étonnante de l'intention de vie. C'est une intelligence de l'amour, l'intention de vie. C'est une intelligence de l'amour. C'est une perspicacité dans l'ordre de l'amour. Où je veux atteindre ce bien absolu personnel. Où je comprends que je dois atteindre ce bien personnel. L'intention ordonne tous les moyens en vue d'atteindre d'une manière efficace cette fin. C'est ça que fait l'intention de vie. Alors, comprenons bien, hein, je suis dans l'ordre pratique. Donc, l'intention de vie, c'est ma première décision. Je me décide à m'orienter de cette manière-là. Il y a une intention de vie pour la vocation, par exemple. Je décide d'orienter ma vie vers un aspect contemplatif. Mais la générosité peut être un obstacle terrible à la contemplation. Parce que c'est l'immédiat. Je me jette immédiatement là-dessus. Tandis que la contemplation, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas immédiat. La fin n'est jamais immédiate. Jamais. Une vraie fin n'est jamais immédiate. Et si je suis pris par l'immédiateté à cause de ma générosité, qui ne veut pas attendre, alors à ce moment-là, je me précipite vers n'importe quel moyen. Vous voyez, le manque d'intelligence fait avorter des quantités de vocations contemplatives. Ça, j'en suis sûr. Et le point de vue de la générosité vous précipite sur n'importe quel moyen. Ça, on voit ça constamment. Alors, il faut y réfléchir, comprendre un peu ce que représente justement cette générosité de vie par rapport aux moyens, et puis comment l'intelligence dépasse cette générosité des moyens pour découvrir la source de tous les moyens, par où tous ces moyens sont bons. Immédiatement après l'intention de vie, dans l'ordre de l'analyse, vous avez les moyens. J'essaie d'étudier les différents moments dans mon activité humaine. Vous avez les moyens. Alors, il faut bien comprendre ici cette phase particulière des moyens. Le passage de l'intention aux moyens, vous voyez que je peux le comprendre de deux manières. J'ai la découverte de la fin. Et une fois que j'ai découvert la fin, je reviens au moyen. Donc, il y a la montée et la descente. Dialectique ascendante, dialectique descendante. Je découvre à partir des moyens la fin. Et une fois que j'ai découvert la fin, je reviens au moyen. Parce que la fin a été découverte à partir des moyens. Je peux donc revenir au moyen. Mais dans la lumière de la fin. Le moyen n'est véritablement aimé d'une manière prudentielle et d'une manière vraie que quand il est aimé dans la lumière de la fin. Le moyen qui est regardé pour lui-même risque de m'arrêter. Le moyen dont je me sers pour découvrir la fin, je l'abandonne. Vous voyez, il y a trois regards sur les moyens. Et je crois que c'est important de bien saisir ce triple regard sur le moyen. Carpe diem, je m'arrête au moyen. Les deux genoux en terre, je bois. Je m'arrête. C'est si agréable le petit déjeuner. Alors ça dure. C'est le repas le plus agréable. Alors ça dure. Les deux genoux en terre. Je me sers du moyen pour découvrir la fin. Je le relativise. Et lorsque j'ai découvert la fin, je jette la vieille chaussette. Rien du tout. Tu n'es qu'un moyen. Rien du tout. C'est pas du réalisme, ça. C'est encore une espèce d'idéologie de la fin. Au contraire, je regarde le moyen dans la lumière de la fin.